Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, le mensonge de nos vies a été la source de nos difficultés. Ce sont les mots du président de la conférence des évêques de France, Monseigneur Pontier, les évêques réunis à Lourdes depuis ce matin. L'église française sonnée par les scandales qui se succèdent. Le réchauffement climatique est deux fois plus rapide au Canada que dans le reste du monde. Une étude le prouve. Les détails dans un instant. Un Brexit sans le moindre accord est de plus en plus probable. Parole du négociateur européen Michel Barnier et du ministre français de l'économie. À nouveau hier, les députés britanniques ont échoué à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Jeudi, le premier débat de la campagne des européennes sur France Inter et France 2, 12 candidats. Comment se prépare-t-il? Nous verrons cela avec Maxence Lambrecq. François Hollande ce matin sur France Inter. Je voterai pour les socialistes aux européennes s'il y en a. Façon de jeter le doute sur la candidature Glucksmann. Les militants socialistes se prononcent aujourd'hui. Un rendez-vous que nous aimons beaucoup. Nous dévoilerons tout à l'heure avec Eva Bettan le nom des auditeurs jurés cette année du prix du Livre Inter avec Eva Bettan et le président du jury. Bonjour Riyad Satouf.
Bonjour.
Ces jurés, qu'en attendez-vous?
Qu'ils soient le plus libres possible et qu'ils me fassent partager leur ressenti et leur vision des livres. Parce que c'est vrai que quand on fait des livres comme moi, j'ai pas forcément le même ressenti de lecteur en fait. Voilà.
Et qui vous contredisent et qui vous fassent la vie dure.
Oui, complètement. J'espère bien me reposer sur eux complètement.
Bon, à tout à l'heure, on dévoile le nom des jurés et également les livres qui seront en course avec Eva et vous, Riyad Satouf. Dans ce journal encore, 37 millions d'euros. C'est avec cette somme que Tom Enders va quitter son poste chez Airbus. La chronique santé de Daniel Messager, du nouveau dans les pharmacies avec le projet de loi santé. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Ça n'est pas fameux, nous dit Météo France aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui n'aiment pas la pluie.
Effectivement, on a actuellement des averses entre les Ardennes, la Lorraine, le Massif central et l'Est des Pyrénées. Ces averses vont se réactiver cet après-midi avec des risques d'orages et de fortes rafales de vent qui pourront aussi toucher l'Est des Hauts-de-France et l'Est parisien. Sur le Nord-Ouest, c'est une perturbation qui apportera de la pluie. Après-midi, plus calme sur les régions les plus à l'Est, mais le soleil sera atténué par un voile nuageux assez épais et les températures sont en baisse, 10 à 16 degrés sur le quart Nord-Ouest et jusqu'à 22 degrés ailleurs.
D'autres détails à 13h30 et puis adieu Agnès Varda, ses obsèques cet après-midi et hommage très émouvant ce matin à la Cinémathèque. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Ces dernières semaines, il y a eu le film de François Ozon sur les victimes du père Prénat, poursuivi pour agression sexuelle. La condamnation de Monseigneur Barbarin pour ne pas avoir dénoncé les crimes du prêtre. Le documentaire sur les religieuses abusées. L'ambassadeur du pape à Paris, soupçonné d'agression sexuelle. Et dans un tout autre registre, le livre de Frédéric Martel sur l'homosexualité au Vatican qui dit l'ampleur de l'hypocrisie et des doubles vies. Sous l'effet de cette rafale de révélations, le déclin du catholicisme en France va-t-il encore s'accélérer? La conférence des évêques de France s'est ouverte ce matin à Lourdes, dans une ambiance pesante. Monseigneur Pontier, archevêque de Marseille, quitte son poste de président de la conférence des évêques sur un constat amer et sévère.
Je sens que ceux qui avaient une image de l'Église parfaite dans tous ses membres, y compris dans les membres du clergé, sont ébranlés. Et j'ai parlé du mensonge de nos vies, et je crois que le mensonge de nos vies a été ce qui est à la source de nos difficultés d'aujourd'hui. Quand on a des doubles vies, si on peut l'exprimer autrement, les choses se détraquent. Et j'espère vraiment que nous allons continuer à remettre les choses dans le bon ordre.
Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Cette conférence, Julie, vous la suivez pour France Inter, conférence des évêques, un moment de crise aiguë pour l'Église de France et l'Église en général. Et au fond, Julie, le mandat de Monseigneur Pontier à la tête de la conférence des évêques depuis 6 ans résume bien les tourments qu'a dû affronter l'Église.
Dès son arrivée, en fait, l'archevêque de Marseille, homme paisible, peu désireux de se mettre en avant, a fort à faire. En 2013, la loi sur le mariage pour tous vient d'être votée. L'Église est secouée dans ses valeurs et pour ne rien arranger, les catholiques eux-mêmes sont divisés. Autre clivage qui apparaît très rapidement ensuite, l'accueil des migrants. Une partie de l'électorat glisse vers l'extrême droite. Marine Le Pen progresse, arrive au second tour de la présidentielle. L'Église choisit de défendre les réfugiés. Nous devons les accueillir. Le mandat de Georges Pontier a également été marqué par les attentats. La crispation autour du religieux et l'assassinat du père Hamel, c'était en 2016. Et puis, il y a eu bien sûr les scandales sexuels à répétition, dont il explique lui-même ne pas avoir mesuré au début la gravité. J'ai évolué au fil des années, jusqu'à faire part clairement de sa surprise quand il a compris dernièrement que le pape n'allait pas accepter la démission du cardinal Barbarin. Ces 6 années ont été éprouvantes et riches, et à 75 ans, le corps fatigue, confie-t-il. Je suis heureux de me délester de cette charge. À Lourdes, Julie Pietri, France Inter.
Et quelques chiffres pour vous donner des repères, c'est une enquête Ipsos en 2017. 53% des Français se disent catholiques, 23% catholiques engagés et moins de 2% vont à la messe tous les dimanches. Pourquoi la hausse des températures est-elle deux fois plus marquée au Canada qu'ailleurs? Qu'est-ce que cela nous apprend de nouveau sur le changement climatique? En tout cas, le constat est là. Une hausse moyenne des températures dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale de 0,8 degré. Et au Canada, c'est 1,7 degré. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Question simple, pourquoi?
Eh bien parce que plus on se rapproche des pôles, plus ça chauffe. Depuis 1948, la température annuelle, vous le disiez, sur la planète a augmenté de 0,8 degré. Au Canada, c'est le double et dans son grand nord, presque le triple. Pas étonnant pour un pays situé dans les hautes latitudes, explique Stephen Guilbeau, cet écologiste canadien, est également conseiller du gouvernement Trudeau sur les questions climatiques. Il est au micro de Radio-Canada.
Plus on s'éloigne de l'équateur en montant vers le nord, plus les températures se réchauffent rapidement. Donc, quand vous êtes rendu en Arctique, c'est pas deux fois plus vite que la moyenne planétaire, mais c'est quatre et même cinq fois plus vite que la moyenne planétaire. Donc, c'est un phénomène planétaire. C'est dû à notre géographie. On pourrait être les meilleurs au monde en matière de lutte au changement climatique et le réchauffement serait quand même deux fois plus important ici.
Ce rapport choc avait été commandé par le gouvernement de Justin Trudeau en plein débat sur l'instauration d'une taxe carbone sur l'essence, mais aussi d'autres énergies fossiles comme le mazout, le propane et le gaz naturel. La ministre fédérale de l'Environnement, Catherine McKenna, explique que c'est bien le signe qu'il faut agir plus vite sur Radio-Canada.
On a un rapport aujourd'hui qui démontre que le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde. Ça veut dire plus d'inondations, plus de feux de forêt, plus de températures extrêmes. Nous devons prendre l'action.
Hier, une taxe carbone sur les carburants est entrée en vigueur dans quatre provinces canadiennes. Taxe imposée par le gouvernement fédéral contre l'avis des dirigeants des provinces concernées.
En Australie, record de chaleur en mars pour le quatrième mois consécutif. Et en France, autour du bassin méditerranéen, il y a déjà des alertes sécheresse et un déficit de pluie depuis le début de l'année. Allez, donnez-nous de bonnes nouvelles, allez-vous dire. En voici une. Le gouverneur de la Banque de France était ce matin l'invité de France Inter. Il parle du pouvoir d'achat.
En moyenne, l'année 2019 devrait être plutôt un bon cru avec environ 2% de hausse du pouvoir d'achat par habitant. Et ça tient notamment à la très bonne maîtrise de la hausse des prix. C'est un des apports de l'euro pour le pouvoir d'achat des Français.
François Villeroy de Gallo qui redoute de fortes perturbations sur les marchés en cas de Brexit sans accord. Les Britanniques toujours d'accord sur rien. Ont 10 jours pour présenter une autre solution aux Européens avec un plan solide à la clé. Une autre solution que celle qui avait été négociée par Theresa May. Sinon c'est la sortie sèche. Retour de la frontière, retour des douanes. C'était inimaginable il y a quelques temps encore, mais les temps ont changé. Écoutez le négociateur européen Michel Barnier en anglais ce matin à Bruxelles.
No deal was never our desired or intended scenario.
Une sortie sans accord n'a jamais été le scénario que nous souhaitions ni ne désirions. Le no deal n'a jamais été le scénario que moi je désirais ou souhaitais. Mais l'Europe des 27 est désormais prête. Avec chaque jour qui passe, cela devient de plus en plus probable. Si le Royaume-Uni veut toujours, veut encore quitter l'UE de manière ordonnée, cet accord, ce traité est et sera le seul.
Is and will be the only one.
Brexit, les Anglais pédalent dans le porridge, c'est le thème du Téléphone Sonne ce soir. Vos questions à Fabienne Sintès et ses invités au 01 45 24 7000 à partir de 18h ou sur franceinter.fr. Avec le Brexit, c'est l'histoire en direct en Angleterre, l'histoire aussi à Chicago aux États-Unis. Élection municipale, quel que soit le résultat ce soir, Grégory Phillips, la troisième ville des États-Unis sera dirigée par une femme afro-américaine.
Welcome to the Morning Star Auditorium.
Le dernier débat télévisé la semaine passée entre Lori Lightfoot et Tony Preckwinkle a été particulièrement tendu.
Well, there she goes again.
D'un côté, la quinquagénaire Lightfoot, ex-procureur, ancienne avocate qui longtemps a dénoncé le racisme systémique des policiers de Chicago et qui est aussi la première personnalité ouvertement homosexuelle à briguer le poste. De l'autre,
Tony Preckwinkle, is tough.
Preckwinkle, 72 ans, qui préside le comté de Cook. Elle est notamment soutenue par les puissants syndicats de la ville. Mais quelle que soit l'issue du scrutin, cette élection entre deux démocrates marquera l'histoire. Pour l'instant, une seule femme blanche et deux Afro-Américains ont occupé les fonctions de maire de Chicago. Celle qui sera élue ce soir devra en tout cas administrer une ville compliquée parmi les plus dangereuses du pays, avec plus de 500 meurtres comptabilisés l'an passé, et aussi une ville qui se vide d'une partie de ses habitants. Les Noirs des quartiers sud et ouest s'en vont et fuient la violence et la pauvreté. Redonner vie et des emplois à ces quartiers afro-américains sera l'un des défis de la nouvelle maire. Washington, Grégory Phillips, France 1.
La politique en Europe est là aussi un phénomène de fond, durable ou pas, c'est à voir. Le déclin de la social-démocratie. L'ancien président de la République, François Hollande, était ce matin l'invité de France Inter. Petite question de Nicolas Demoron.
Vous allez voter aux élections européennes ?
Je vote à toutes les élections.
Et alors pour qui, là ?
Je voterai pour les socialistes. Je vote toujours pour les socialistes. Faut-il encore qu'il y en ait ?
Donc ?
J'attends de voir la composition de la liste. J'ai compris que Raphaël Glucksmann était le tête de liste. La question que je pose, c'est à quel groupe vont-ils, ces candidats, s'inscrire ? Parce que c'est une élection européenne. C'est une élection où, à la fin, les candidats élus doivent dire dans quel groupe ils vont s'inscrire.
À ce stade,
groupe écologiste, groupe socialiste, groupe communiste. Mais j'attends de voir si, notamment, Raphaël Glucksmann s'inscrira au groupe socialiste européen.
Et qu'en pensent les militantes socialistes de cette liste Glucksmann ? Ils se prononcent aujourd'hui, jeudi, sur France Inter et France 2, le premier grand débat avant les européennes. Ce sera une première pour beaucoup de candidats qui sont souvent jeunes ou novices. Raphaël Glucksmann, donc, mais aussi le communiste Yann Brossa, Jordan Bardella pour le Rassemblement National, Manon Aubry pour les Insoumis, François-Xavier Bellamy chez les Républicains, Nathalie Loiseau chez les Marcheurs, Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, Yannick Jadot, les écologistes, et aussi Benoît Hamon, François Asselineau et Florian Philippot. Comment se prépare-t-il ? Élément de réponse avec Maxence Lambrecq.
Vous ne connaissez ni leur voix, ni leur visage et à peine leur nom. Ils n'ont pour la plupart aucune expérience du grand débat télé, alors forcément le stress monte dans les QG. Chez les Insoumis, Manon Aubry va avoir le droit à son débat à blanc, un grand jeu de rôle pour affiner ses répliques. Tous les autres libèrent au moins leurs agendas pour réviser des fiches, travailler des formules. L'ex-ministre Nathalie Loiseau veut par exemple rendre son projet européen le plus concret possible et chacun des candidats se plaît aussi à éplucher les votes du Parlement européen. Ils listent en ce moment les contradictions de leurs adversaires entre les discours d'aujourd'hui et les votes d'hier. Nicolas Dupont-Aignan et Jordan Bardella vont attaquer sur ce thème le candidat LR François-Xavier Bellamy, qui est l'un des rares à continuer les meetings cette semaine. À en croire les équipes de campagne, personne ne veut d'un débat pour ou contre Macron, mais projet contre projet. On ne veut parler que d'Europe, insistent Raphaël Glucksmann et le communiste Yann Brossa. Mais chacun vient aussi pour se faire connaître, combler ce déficit de notoriété et incarner le renouveau du monde politique.
Et la France Insoumise et le Rassemblement National lancent chacun un emprunt auprès des Français pour financer leur campagne européenne. Ils affirment que les banques refusent de leur prêter de l'argent. Nous avons commencé ce journal avec la crise au sein de l'Église de France, crise au sein de l'Église tout court, et ce document du pape qui était attendu, exhortation apostolique, on en a les premiers échos depuis quelques minutes avec ces mots assez marquants. L'Église catholique, écrit le pape, doit reconnaître l'existence dans son histoire d'une domination masculine et de violences sexuelles commises aux dépens de femmes et d'enfants. Voilà quelques extraits de cette exhortation apostolique rédigée par le pape François.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
À nouveau, un grand patron va quitter son poste avec une somme totalement incompréhensible pour le commun des mortels. Tom Enders, président exécutif d'Airbus, laisse la main mercredi de la semaine prochaine. Entre les retraites, les actions gratuites, la clause de non-concurrence, cela fait près de 37 millions d'euros, Faustine Calmel.
Et la plus grosse part sera versée via une retraite chapeau, 26 millions, 1 300 000 euros par an pour Tom Enders. C'est quasiment un record pour un patron du CAC 40 et ça tombe très mal pour Michel Pierre, il est délégué CFDT chez Airbus.
On est en train de négocier les politiques salariales dans les différentes divisions du groupe. Et on nous demande de penser à la compétitivité et donc d'être modéré en termes de revendications salariales. Et là, nous tombe des chiffres hallucinants, disons. C'est très difficile à avaler pour les salariés de voir ces niveaux de rémunération.
Alors oui, Tom Enders a un bilan financier positif. Airbus affiche un bénéfice net de 3 milliards d'euros en 2018 et vient de signer une commande de 300 avions avec la Chine. Mais la production de la 380 va s'arrêter. Plus de 3000 postes pourraient être touchés. Il y a aussi de grosses inquiétudes autour de plusieurs enquêtes qui mettent le groupe sous pression, estime Loïc Dessin du cabinet d'études Proxinvest.
Airbus est quand même sous enquête du parquet national financier, du Serious Fraud Office au Royaume-Uni et du département de la justice américaine pour des affaires de corruption. Donc on a peur du pire sur certaines amendes qui pourraient être données à Airbus. Airbus. Et force est de constater qu'il ne pâtira pas de ça puisqu'il ne sera plus dans l'entreprise.
Et l'enveloppe de 37 millions d'euros ne sera pas soumise aux actionnaires. C'est une règle française et Airbus est de droit néerlandais.
Merci Faustine, voilà pour l'actualité économique. 12 résidents de la maison de retraite de Lerm près de Toulouse restent hospitalisés 36 heures après ce qui est très probablement un épisode d'intoxication alimentaire. Il a fait 5 morts. La ministre de la Santé est à Lerm en ce moment. La chronique santé du mardi. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
Le projet de loi Buzyn est passé en première lecture à l'Assemblée. Alors on a beaucoup parlé, notamment sur France Inter, des études de médecine, des déserts médicaux. Arrêtons-nous avec vous Daniel aujourd'hui sur le rôle des pharmaciens qui est renforcé.
Oui, avec la possibilité de délivrer des médicaments sans ordonnance. Alors dans des cas très précis, on donne souvent comme exemple la cystite.
Oui.
C'est vrai que c'est très parlant. Pour la femme, c'est très douloureux. Elle ne peut pas, par exemple, avoir de rendez-vous tout de suite chez son médecin. Eh bien, le pharmacien pourra délivrer un médicament pour éviter de souffrir et avouer que c'est important. Mmh. Autre exemple, en cas de grosse rupture de stock sur un médicament, le pharmacien pourra, en attendant, donner un autre traitement.
Alors, ce qui se développe aussi, c'est la télémédecine. On a acté des télésoins chez
oui,
les pharmaciens.
Oui, la télémédecine, c'est côté médecin. Oui. Et les télésoins, c'est pour les pharmaciens. C'est le même principe, entrer en contact directement avec le patient. Karine Wolfetal est présidente de l'Ordre national des pharmaciens.
Concrètement, si je suis une personne qui a plusieurs ordonnances, plusieurs traitements, je suis perdue. Mon pharmacien m'a déjà vue et déjà donné mes médicaments. Mais là, je rentre à la maison, je me rends compte que finalement, j'avais une autre ordonnance. J'ai oublié d'en parler au pharmacien, eh bien, je peux rentrer en contact par télésoins et le pharmacien va pouvoir me réexpliquer, me montrer les traitements que je dois prendre, comment je dois les prendre si certains sont un peu complexes, eh bien, je pourrais montrer visuellement et répondre aux questions du patient.
L'idée, Daniel, c'est aussi en quelque sorte de redorer l'image des pharmaciens, pas seulement des commerçants, mais aussi des acteurs de santé.
Eh bien, il y a de ça. Alors, ça avait commencé avec les vaccins. Contre la grippe, les pharmaciens pouvaient vacciner déjà dans certaines régions et ce sera le cas partout l'hiver prochain. Reste l'image aussi par rapport aux médecins. Alors ces derniers n'étaient pas toujours ravis de déléguer tout en se plaignant de ne pas pouvoir tout faire. Ah oui, c'est un paradoxe. Voilà. Karine Wolfetal.
Je souhaiterais qu'on arrête de nous opposer médecins, pharmaciens, parce que sur le terrain, c'est pas ce qui se passe. Sur le terrain, médecins et pharmaciens travaillent ensemble, en équipe, en couple, et se dépannent les uns les autres. C'est ça qui est intéressant dans cette loi, c'est que ça va encadrer et sécuriser ce qui se fait déjà. Nous, pharmaciens, nous voyons des patients que notre confrère médecin à côté n'a pas eu le temps de voir et on se téléphone, on se dit « bon, est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux prendre en charge cela ?» Et puis on se rattrapera, je te renverrai une ordonnance. Voilà, c'est ça la vraie vie, c'est ça ce qui se passe. Sauf que aujourd'hui, eh bien, ça n'est pas sécurisé ni encadré. Donc c'est tout l'intérêt de cette loi, c'est d'organiser autour du patient les professionnels de santé pour une meilleure prise en charge des Français.
Et on assiste donc à un rééquilibrage des tâches pour les pharmaciens comme pour d'autres professions. Les infirmières par exemple, pour la bonne santé de tous, il y a les médecins, mais pas uniquement.
Merci Daniel Messager. À Lyon, la grève des éboueurs, un peu plus dure encore aujourd'hui. Une partie des éboueurs du privé rejoignent leurs collègues du côté de Lyon et Villeurbanne. Un mot de football, la Coupe de France, la première demi-finale ce soir, Lyon-Rennes. Demain, ce sera PSG contre Nantes. Ah, il y a des petits ou grands plaisirs qui reviennent comme ça à chaque printemps. Mercredi 2 avril, il est grand temps, mardi 2 avril, il est grand temps de vous dévoiler le nom des auditrices et auditeurs de France Inter qui formeront cette année le jury du prix du Livre Inter sous la présidence de Riyad Satouf. Rebonjour, monsieur Bonjour. Le président, l'arabe du futur, Pascal Brutal, la vie secrète des jeunes, les cahiers d'Esther, les beaux gosses au cinéma. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure ce que vous attendez de ces jurés. Une ou deux lettres, ou qu'est-ce, vous en avez lu évidemment des lettres, qu'est-ce que vous retenez ?
Je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est que ce sont tous des passionnés obsédés par les livres et la lecture. Oui. Et c'est vrai que bon, moi, en tant que personne qui fait des histoires, j'oublie ce rapport que peut avoir le lecteur au livre parfois. C'est vraiment dans leur façon de parler de leur lecture, on voit qu'il y a des livres qui leur servent à quitter le réel ou à être bousculés, ou des livres qu'ils ont aimés mais avec lesquels ils sont pas forcément d'accord. Et c'est des choses que je trouve très émouvante à découvrir, de tous les milieux, bien sûr. Ça n'a pas de...
Ça, c'est le cas tous les ans dans le prix du Livre Inter. Bonjour Eva Bétan.
Bonjour.
Les livres m'ont façonné année après année, sans les poèmes de Desnos ou de Musset. Musset. Je n'aurais pas aimé les mêmes personnes, dit un ou une jurée.
Et j'ai très envie de le voir parce qu'il dit que sans les livres de Jack London, il n'aurait pas ce physique de baroudeur. Donc on va voir s'il dit vrai ou s'il ment.
Parlez-nous de celui qui travaille à la Tour Eiffel.
Qui a travaillé. C'était un petit boulot de jeunesse, après ce que j'ai compris. Et donc il avait un CDI à temps partiel et il avait dans sa poche des livres et il les lisait très discrètement. J'imagine le geste, vous voyez, avec la main discrètement, on sort de la poche et on lit quelques lignes de Quignard. Voilà, il lisait tout en montant les gens à la Tour Eiffel. Voilà. Il y a des choses vraiment très, très chouettes. Il y a des choses, des fins de lettres, par exemple, quelqu'un, et je dis, et je vous envoie un sourire. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de voir la personne qui dit, et je vous envoie un sourire. Et une autre qui dit, j'ai un secret, je bouillonne. Je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a des trucs comme ça qui rentrent dans votre tête.
Est-ce qu'il parle du président du jury, et notamment, alors voilà, c'est un auteur de bande dessinée cette année, c'est spécial.
Ça, je dirais, sur l'ensemble des lettres qu'on a eues, c'est une chose qui est venue très souvent. C'est formidable, vous avez pris un auteur de BD. Comme si on libérait quelque chose, je dis, mais attends, pourquoi ça n'a pas été fait avant, et il y a le fait que pour certains, la BD a été l'entrée dans la littérature. Mmh. Il y a aussi le lien avec les parents. J'ai commencé avec les BD de mes parents. Donc on voit tout ce lien qui est totalement intégré à la vie des gens. Et dans des lettres-là, par exemple, il y en a un qui dit que ça le poserait auprès de sa fille, qui a l'âge d'Esther, s'il avait un selfie qui reste sa touffe. Mais il y a des choses plus graves aussi. Il y a une femme qui vit une expérience extrêmement forte en enseignant auprès d'élèves de Roubaix, où il y a beaucoup d'enfants en situation de pauvreté. Ouais. Elle dit, j'ai envie d'en parler qui reste sa touffe. Voilà, donc il y a tout ça qui se joue déjà par la littérature, par les lettres.
On donne les noms dans une toute petite seconde. Votre rapport, vous, au livre Riyad Sattouf, c'est passé d'abord par la BD, comment ça s'est passé?
Ah oui, c'est vrai que je suis dans un milieu culturel pas tellement développé, donc j'ai découvert les livres un peu seul dans le CDI de mon collège. Mmh. Et c'est vrai que c'est passé par la bande dessinée, et peu à peu j'ai lu par intérêt toutes sortes de choses, voilà. Mais c'est vrai que maintenant que je fais des livres, je crois que je lis un petit peu moins qu'avant, parce que je suis très sensible à certains livres et quand il y en a certains qui marquent tellement que j'ai peur qu'ils m'influencent trop fortement. Donc j'évite de trop, voilà, me plonger dedans.
Vous parliez du CDI, ça revient, s'il y a des profs qui nous écoutent, oui, c'est un lieu important, ça revient dans beaucoup de lettres,
oui,
hein, j'ai remarqué.
Oui, et le rapport au prof, donc ça redonnera le moral à ceux qui ont un peu de blues, c'est comment le prof a été un déclencheur, et notamment quand il est sorti des sentiers battus, quand il a trouvé un moyen de les accrocher, autrement qu'en décortiquant, parce que ça fait partie du boulot d'expliquer la structure d'une phrase. Mais ils ont l'impression que ça tue la littérature d'une certaine manière, et ceux qui les ont fait participer à autre chose, où il n'y avait pas la note, et là, il y a cette sorte de remerciement au prof qui transparaît dans beaucoup de lettres.
Alors, les membres du jury du livre Inter 2019, moi c'est le fluo jaune, hein, c'est ça madame la directrice? Ok. Alors, pardon par avance si on accroche des noms de communes ou des noms de famille, ça n'est pas volontaire, on va faire de notre mieux. Sont donc membres du jury du livre Inter cette année Clément Battu, il a 39 ans, il est enseignant à Lille dans le Loir-et-Cher.
Juliette Beau a 42 ans, elle est décoratrice d'intérieur à Clamart dans les Hauts-de-Seine.
Florence Becker, 53 ans, elle est psychologue à Strasbourg.
Michel Billet, 60 ans, il est retraité à Saint-Just-d'Avresse et dans le Rhône.
Noëlique Biteau, 27 ans, vendeuse à Vincennes.
Clémence De Blasi, 30 ans, journaliste à Lille.
Vincent Cando, il a 33 ans, il est architecte à Bayonne, Pyrénées-Atlantiques.
Vanessa Clément-Lacroix. Clément Lacroix, c'est son nom de famille, un trait d'union, 39 ans, enseignante à Beausemblant dans la Drôme.
C'est beau, Beausemblant, j'adore.
Clément Coustenoble, il a 28 ans et il est ex-consultant en intelligence économique à Paris.
Joséphine Galère-Jude, 28 ans, en recherche d'emploi, Neuville-Allais dans la Sarthe.
Geoffroy Gobry, à 43 ans, il est musicien à Belleu dans l'Aisne.
Et Claire Lacombe, 52 ans, ingénieur forestier à Saint-Bosile.
Jordan Loader, 24 ans, prof d'anglais à Issel en Belgique.
Christine Mac, 56 ans, professeur dans les Hautes-Alpes. Je ne sais pas quelle ville, elle ne le dit pas.
Samuel Maruta, 44 ans, il est chocolatier à Paris.
Un chocolatier dans le jury. Guy Mercier, 56 ans. Guy Mercier, 56 ans, psychologue clinicien à Marseille.
Aurore Mirlou, 41 ans, ingénieur agronome à Mirefleur dans le Puy-de-Dôme.
Claude Pascot, 57 ans, magistrat à Poitiers.
Vincent Pupin, il a 47 ans, il est consultant indépendant à Tédirac dans le Lot.
Sabine Rousselot, à 31 ans, elle est graphiste à Paris.
Et Jean-Claude Simon, 62 ans, il est retraité à Sept-Moncelles dans le Jura.
Romain Varnier, 30 ans, marin, Douarnenez, Finistère.
Léna Vialetel a 50 ans, elle est enseignante à Pontcharrat en Isère.
Et la dernière, c'est Pascale Vieljeuf, elle a 52 ans, directrice des ressources humaines au Lila, en Seine-Saint-Denis.
Anne Odigier, qui suit de très près le prix du livre Inter, est à côté de moi. C'est déjà sur franceinter.fr ou pas encore? Oui, tous les noms sont déjà sur franceinter.fr, vous les retrouvez donc. Et on me dit dans le casque qu'on n'a plus que 2 minutes,
oui, donc
il faut qu'on donne vite
la
liste des livres en compétition. J'ai toujours le fluo jaune. Arcadie, chez POL, Emmanuel Bayamak-Tam.
Née d'aucune femme, de Franck Bouys à la manufacture des livres.
Les Enténébrés, de Sarah Chiche au Seuil.
Maïs de Kerangal a écrit Un monde à portée de main, c'est chez Vertical.
Et Léonore de Récondo a écrit Manifesto, c'est publié par Sabine Weiss-Piesser.
Doggerland, d'Elisabeth Fillol, chez POL.
La plus précieuse des marchandises, de Jean-Claude Grimbert aux éditions du Seuil.
Nino dans la nuit, de Capucine et Simon Johannin aux éditions Alia.
Chien-loup, de Serge Jeancourt, chez Flammarion.
Et Une vie en l'air, de Philippe Vassé, chez Fayard. Voilà pour les 10 livres, il y en a 10, dont on peut feuilleter des extraits sur le site franceinter.fr. Est-ce que vous en avez lu certains déjà, Riyad Satouf?
Aucun.
Vous les aborderez comment, ces livres?
Avec beaucoup de plaisir et de curiosité, parce qu'en fait, j'avoue que c'est vrai que je lis peu de littérature moderne et juste écrite là. Parce que... Et donc là, j'en ai déjà vu quelques-uns qui m'interpellent beaucoup.
Eva, il nous reste 30 secondes, un rendez-vous important, ce sera dans ce journal de 13h. Vous allez interviewer chaque auteur.
Exactement.
Pour que nos auditeurs...
Voilà, dans les 15 jours qui précèdent les délibérations étant le dimanche 9 juin, oui. Et l'annonce à l'antenne le lundi 10, et les interviews en plus long seront aussi sur le site internet. Donc vous aurez, notre idée c'est aussi que de mettre en valeur tous ces 10 livres.
Eh bien, nous suivrons cela de très très près. Bravo aux 20 lauréats, entre guillemets. Et il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir. Un dernier extrait de lettre. J'ai été biberonné à France Inter. J'ai vécu des retours de vacances à jouer au jeu des 1000 francs et découvert des réponses à des questions que je ne me posais pas grâce au petit bateau. Aujourd'hui, votre maison est un refuge auditif pour l'être humain que je suis. Merci beaucoup, Riyad Satouf.
Merci beaucoup.
D'être venu dans le studio du journal de 13h. Et avec nous, il y a Jacqueline Pétros. Bonjour, Jacqueline.
Bonjour Bruno.
On dit adieu aujourd'hui à Agnès Varda. C'est à huis clos les obsèques au cimetière du Montparnasse cet après-midi. Il y avait un hommage ce matin à la Cinémathèque que vous avez suivi, Jacqueline. Très émouvant cet hommage.
Ah oui, un très bel hommage avec beaucoup d'émotions bien sûr, mais il y avait aussi beaucoup de rire et puis de l'humour comme Varda le voulait, comme elle aimait la vie. Aux côtés de ses enfants Rosalie et Mathieu, il y avait Catherine Deneuve, J.R., Sandrine Bonner, Chiara Mastroianni, Bulogier, Jacques Perrin et puis des officiels très émus aussi comme Franck Riester, le ministre de la Culture, et Christophe Girard, l'adjoint à la Culture à la mairie de Paris. Il y avait beaucoup d'amis et d'anonymes. Il a fallu ouvrir 3 salles de la Cinémathèque pour cet au revoir. Et puis, il y a eu beaucoup d'applaudissements, parce qu'à chaque fois qu'Agnès Varda apparaissait sur l'écran, eh bien, on riait, on dansait avec elle. Et puis, elle assénait quelques vérités féministes avec espièglerie, mais qui touchaient juste. Sandrine Bonner, toute de rouge vêtue, la couleur d'Agnès Varda, a, elle, bouleversé le public tant elle était encore marquée par cette disparition. J.R. Louis, le co-réalisateur de Visage Village, a choisi le sourire pour parler de ce que la cinéaste lui a laissé en partage.
Elle était dans le vrai présent, elle regardait chaque chose, elle s'arrêtait sur la pluie qui tombe, sur les feuilles, sur le vent qui traverse une cour, sur l'ambiance d'une salle, sur toutes les petites choses comme ça, elle prenait le temps de les rappeler. Et en fait, moi qui croyais avoir la réponse, courir, etc., elle me rappelait qu'en fait, le secret, c'était d'en prendre le temps de regarder les autres, d'en prendre le temps de parler aux autres.
Enfin, l'émotion, toujours avec Jane Birkin, qui a clos cet au revoir d'une voix ténue et sereine avec cette belle chanson, L'amour de moi. Agnès Varda va donc maintenant reposer au cimetière Montparnasse, auprès de Jacques Demy, sous le grand arbre qu'elle avait planté auprès de la tombe de l'amour de sa vie.
La rose et le muguet.
Jacqueline Pétros pour cet hommage à Agnès Varda et la voix de Jane Birkin. Merci également à Marc Garvenès à la technique.
La météo avec Gautier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Sébastien Léas.
Cet après-midi, les nuages s'imposent sur la majeure partie du pays, entre la Haute-Garonne, le Bas-Languedoc, la Bourgogne jusqu'à la Lorraine, à l'est du bassin parisien et des Hauts-de-France. Les nombreux nuages sont même menaçants et des averses localement orageuses éclatent. Dans le même temps, une perturbation glisse jusqu'au pays de la Loire, à la Normandie et au Pas-de-Calais, donnant un après-midi gris et pluvieux. Le temps devient plus variable en Bretagne et en Basse-Normandie, les éclaircies alternant avec des passages d'averses. Le risque d'averses est plus localisé entre le sud de la Garonne, la Sologne et l'Île-de-France, mais la perturbation pluvieuse va arriver avant la fin de journée. Entre l'Alsace, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, la Provence et la Corse, des nuages élevés assez épais recouvrent le ciel. Le temps reste sec cet après-midi, mais la nuit sera plus agitée avec des passages d'averses. Les températures sont en baisse de 10 degrés près de la Manche à 22 degrés en pleine d'Alsace.